Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur que l'on remercie pour son accueil mensuel. Denis Laspézard, je suis avec Gérard Piel pour l'émission Naturellement du MNLE 06. Alors pour ce mois de mai, nous vous proposons une émission en deux parties. On débutera par les incendies et les moyens humains et matériels dont disposent les soldats du feu. Puis nous annoncerons les résultats des votes concernant la carafe d'or et le broc de plomb.
Effectivement, le mouvement national de lutte pour l'environnement organise une rencontre samedi 10 juin à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, sur les feux extrêmes ou les méga-feux, on peut les appeler de différentes façons, avec la participation de Frédéric Vaucouleurs, qui est lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, de Thomas Courte, qui est chercheur à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Gérard Gauthier et Denis Revalor de France Silva, qui est le syndicat des forestiers privés de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Mathieu Wolf de la CGT de l'ONF. La matinée de cette rencontre sera animée par Jean-Claude Chesnais, qui est administrateur du MNLE PACA, ancien élu de Martigues.
Et toi, Gérard, tu animeras l'après-midi. Et Christian Pellicani, notre président national du mouvement, se chargera des conclusions en ouvrant des pistes d'action et de réflexion. On peut d'ailleurs d'ores et déjà s'inscrire en téléphonant au 06 08 21 76 99. Alors, Gérard, c'est un constat, hein, les incendies, comme la sécheresse, commencent de plus en plus tôt dans l'année. Y compris dans des régions qui étaient jusqu'à présent épargnées.
Que ce soit dans notre département où déjà plus de 100 hectares ont déjà brûlé, ou dans les Pyrénées-Orientales où 1000 hectares se sont consumés au mois d'avril, nous constatons que le changement climatique n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité brûlante, si j'ose dire. Je rappelle que l'été dernier, 70 000 hectares ont été ravagés en France, en particulier en Gironde. Si on en croit le ministre de l'Intérieur, je le cite, la France est prête à affronter la saison des incendies. Il n'a pas compris qu'il n'y avait plus de saison et que les syndicats de sapeurs-pompiers réclament avec force des moyens humains et matériels conséquents. Par exemple, il y a aujourd'hui 40 000 pompiers professionnels en France. Il en faudrait le double. On attend toujours le renforcement de la flotte de Canadair. On a vu en avril, ici, dans les Alpes-Maritimes, qu'il a fallu louer un avion pour combattre les incendies. Un Canadair, ça coûte 35 millions d'euros. Je rappelle que la loi de programmation militaire prévoit 413 milliards d'euros de dépenses en 5 ans pour l'armée. On peut penser que, comme on appelle les pompiers, les soldats du feu, ils pourraient aussi être intégrés à cette programmation militaire. Aujourd'hui, il y a 12 appareils pour toute la France et on voit bien que c'est nettement insuffisant.
Oui, tu l'as dit, hein, les pompiers, c'est quand même des soldats du feu, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas traités de la même enseigne. Mais le président Macron a quand même promis quelque chose. Il a promis que on allait acheter des nouveaux Canadair.
Oui, il a promis qu'on allait acheter des nouveaux Canadair. Il parle de 2027 et ses quatre appareils. Il faut aussi voir qu'il faudra remplacer des appareils de la flotte existante. Donc, il n'y aura pas quatre appareils en plus, mais il y en aura un minimum ou un maximum, pardon, deux. Et puis, est-ce qu'on peut encore croire ce président? En 2023, les moyens humains sur l'ensemble du territoire national seront au mieux identiques à 2022, mais on pense qu'ils seront en diminution par rapport au départ à la retraite. Je ne reviens pas sur l'année catastrophique qu'a été 2022 quand on parle des incendies. Les services départementaux d'incendie et de secours sont gérés par le département, par les départements. Les sous-équipements varient d'un département à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que la valorisation des pompiers volontaires tient plus à une main-d'œuvre pas chère qui bouche les trous qu'à une porte d'entrée vers le métier. Et donc, tout aujourd'hui est tourné vers ces questions de pompiers volontaires, mais on va détailler à quoi servent ces pompiers et plutôt qu'est-ce qu'ils coûtent à l'État.
Oui, en parlant des pompiers volontaires, hein, on se rend compte que le système est à bout de souffle. Hein. Il faut savoir que les pompiers volontaires ne sont pas rémunérés, mais qu'ils sont simplement indemnisés entre 8 et 12 euros de l'heure, selon leur grade. Oui, ces indemnités sont exonérées d'impôt sur le revenu, ce qui fait dire aux syndicats de pompiers que ce mode de rémunération s'apparente à du travail au noir légal. C'est vrai, quand on y regarde, c'est un peu ça. Enfin, pour les sapeurs-pompiers volontaires, ils ont un régime spécial de retraite et qui est appelé allocation de vétérance. Pour voir ce qui représente, hein, pour 20 ans de service, il équivaut à 42 euros par mois. Et pour 35 ans de service, ce qui est assez exceptionnel pour un pompier volontaire, il est équivalent à 256 euros par mois. Donc c'est quand même une misère. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que c'est le fonctionnement global de la sécurité civile qu'il faut interroger. Là, on parle des feux estivaux, et encore, c'est plus estivaux puisque c'est avant la saison. Donc ces feux s'ajoutent à une longue liste de difficultés d'une profession qui est en crise et régulièrement en lutte, qui n'a pas vu un camion de pompiers avec marqué dessus en grève. Ils sont constamment en lutte. Alors, bien sûr, les pompiers, les syndicats de pompiers nous disent qu'ils répondront toujours aux sollicitations, mais ils rajoutent que si demain, par exemple, il devait y avoir, en plus des feux en Gironde, un incendie massif dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, ils le disent très clairement, on ne pourra pas faire face. Quant aux effectifs, leur nombre n'a quasiment pas changé depuis 20 ans, alors que la population a augmenté. Et que les représentants syndicaux disent qu'il y a une crise de vocation au niveau des pompiers volontaires, alors que les risques à courir, eux, ne connaissent pas la crise. Alors, si ces personnels bénévoles, mais qui sont simplement défrayés, manquent à l'appel, c'est tout un système qui flanche. Il faut savoir qu'en cas d'incendie, c'est 8 pompiers engagés sur 10 qui sont volontaires. Alors, c'est ce qui fait dire là aussi à ces pompiers, c'est qu'ils disent « nous sommes l'assurance tout risque la moins chère de France ». Donc, la politique nationale de prévention ne peut plus être une politique de juxtaposition départementale. Tout à l'heure, tu vas nous parler de ce que fait le département, mais je crois qu'il faut regarder ce problème d'une manière globale et d'une manière nationale. Et ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'un grand débat national qui réponde à ce genre de questions. C'est notamment à quoi sert un service public de secours et que mettons en face des risques. Pas uniquement des belles paroles, il faut espérer.
Effectivement, et la rencontre du 10 juin, on aura aussi des élus qui vont participer parce qu'aujourd'hui, ce service départemental d'incendie de secours, comme son nom leur porte, maintenant, a été confié au département. Alors qu'on voit bien que c'est quelque chose qui devrait être, qui devrait répondre de la responsabilité de l'État, comme l'armée, comme la gendarmerie, comme la police. En se défaussant sur les départements, on laisse à des départements qui ont très peu de moyens, je pense aux petits départements, ceux qui ne sont pas trop habités, les Alpes de Haute-Provence, la Creuse, etc. Mais où il y a là, par contre, beaucoup de forêts et d'espaces sauvages, on leur laisse le soin de recruter et de prendre du matériel, ils n'en ont pas les moyens, quoi, tout simplement. Donc, on voit bien aussi comment les élus sont en grande difficulté quand ils doivent, par exemple, donner des permis de construire, je pense là au Var, où on voit bien le mitage qu'il y a au milieu des forêts avec quelques maisons par-ci, quelques maisons par-là, et les pompiers, dans leur statut, dans leurs règles, doivent d'abord défendre évidemment la vie humaine et donc défendre ces maisons qui ont bénéficié de permis de construire isolés, alors que le reste de la forêt et la faune et la flore, elle, subit l'incendie. Il y a là aussi, c'est une question qu'on posera aux élus qui seront présents, quelque chose à revoir. Alors sur le département des Alpes-Maritimes, on peut dire qu'il profite à plein pour ne pas augmenter le nombre de pompiers professionnels, des pompiers volontaires. Oui. Le conseil d'administration du SDIS 06 est présidé par Charles-Ange Ginesi, qui préside aussi le conseil départemental. Il est composé de 28 élus, 14 conseillers départementaux, 7 maires, un président de PCI. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas assidus aux réunions, puisque en moyenne, dans les 2 ou 3 réunions annuelles, il y a 12 élus qui participent à ces réunions. Le budget 2023 qui a été voté à la fin de l'année, 2022, est de 185 111 000 euros. dont seulement 22 660 000 euros en investissement. Mais attention, l'investissement, c'est aussi la rénovation des casernes, le coût de la cantine pour les pompiers, évidemment, qui sont là en astreinte, et puis d'autres choses de ce type, d'autres investissements de ce type. Je rappelle qu'au mois d'avril, je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu qu'il y ait la location d'un avion Dash pour larguer de l'eau sur les feux des Alpes-Maritimes. Les Canadairs n'étaient pas disponibles. Et pour faire le lien avec la deuxième partie de notre émission, ce qui va concerner l'eau, il faut savoir que l'eau utilisée par les pompiers dans notre département pour combattre les incendies est pompée à 98% dans le réseau d'eau potable des communes. Pour le plus grand bien financier des accapareurs de l'eau, qui la facture aux communes. Donc on éteint les incendies avec de l'eau potable, ce qui me semble quand même assez aberrant, alors qu'on a vu il y a quelques semaines tous les débats qui ont eu autour de l'eau des stations d'épuration, comment on pourrait les utiliser après être épurés, etc. Les 98% ne prennent pas en compte, évidemment, l'eau que les Canadairs vont puiser dans la mer et dans les lacs. Si cet été, il y a de l'eau dans les lacs. Les 98% prennent en compte les Dash, les avions qui se servent, donc pas dans la mer, mais sur terre, et les hélicoptères, qui sont aussi des hélicoptères de location, il faut le savoir. Voilà, très rapidement. Alors, pour 2023, il n'est prévu aucun recrutement humain et l'achat d'un seul matériel roulant pour combattre les incendies. Je rappelle qu'au mois d'avril, le département est obligé de louer un avion. Et je rappelle aussi qu'on ne voit pas comment un département comme le nôtre, qui est en alerte sécheresse depuis le mois de janvier, pourrait passer au travers de risques d'incendie, quoi. Quand Charles Agnosinesi dit qu'il est prêt pour cet été, moi j'en doute fortement, quoi.
Oui, c'est effectivement, le président du conseil départemental a dit qu'il était prêt, mais au vu du tableau que tu viens de nous dresser, effectivement, il y a beaucoup de menteurs en politique, hein, ça démarre du président, puis ça découle. On ne peut pas continuer, je crois, à prendre les gens pour des imbéciles en disant que tout va bien, et que quand la catastrophe arrive, on dit « Ah, ben c'est une catastrophe qui est particulière, on ne pouvait pas prévoir ». Je crois qu'il va falloir arrêter un peu ce genre de discours. C'est vrai que le Charles-Ange Ginesi est quelqu'un qui est plein d'optimisme, en tout cas dans ses paroles, et l'optimisme sur l'incendie, la sécheresse ou les inondations, je crois que ça a été démontré dans le département, et il faut être plutôt alarmiste. Et c'est un peu ce que nous souhaitons faire en direction du président et d'une manière générale de tous les élus du département. Alors par contre, dans l'entretien, là où il a dit que tout allait bien pour le SDIS, le président du conseil départemental a annoncé l'achat d'un nouveau million de bouteilles d'eau qui s'ajoutera aux millions de l'année dernière qui ont été achetées dans le département, pour le département des Alpes-Maritimes. Alors c'est vrai que Nestlé, Danone, Coca-Cola ont trouvé la poule aux œufs d'or, et le plastique va encore de beaux jours devant lui dans le département, malheureusement.
Effectivement, ces bouteilles donc sont des bouteilles d'un litre en plastique. L'achat d'un million de l'année dernière n'a pas été, loin de là, tout consommé. Et donc, dans sa grande générosité, avec l'argent de nos impôts, Charles-Ange Ginesi a décidé de racheter un million de bouteilles d'eau. On en aura certainement besoin pour desservir les villages. J'espère que ce ne sera que des villages qui seront en rupture, les villages, les hameaux. Mais il y a aussi la possibilité de faire cela avec des citernes. Il y a aujourd'hui deux citernes d'eau qui pourraient faire cette distribution. On voit bien là aussi les choix qui sont faits d'aller au plus vite et de faire bénéficier les accapareurs de l'eau de la façon dont ils, eux, pompent l'eau et vont la vendre. En deuxième partie, on va annoncer les vainqueurs du vote de la carafe d'or et du broc de plomb. On peut déjà dire qu'un des récipiendaires est originaire de notre département, et ce qui nous sera beaucoup plus facile pour lui remettre son prix. Mais avant de passer à l'intermède musical, quelques mots sur une nouvelle là qui est tombée il y a quelques jours. Il se pourrait qu'à Fos, à Fos-sur-Mer, cet été, des tankers, près de 20 tankers de 200 000 mètres cubes chacun, pourraient quotidiennement partir de Fos-sur-Mer pour amener de l'eau au Moyen-Orient, mais aussi une cinquantaine de tankers de 80 000 mètres cubes, donc plus petits, qui partiraient, eux, de Martigues. Donc, c'est-à-dire près de 5 millions de mètres cubes au quotidien d'eau qui seraient échangés contre du pétrole. Les réunions qui se sont déroulées, c'est dans la presse, hein, c'est pas moi qui le dis, les réunions qui se sont déroulées à l'Élysée sous la direction d'un ancien cadre d'EDF qui a trouvé une nouvelle façon d'exprimer toute sa compétence, puisque cette eau est l'eau qui découle du barrage de Saint-Chamas, c'est-à-dire de la Durance, qui est de l'eau douce et qui se jette dans l'étang de Berre, qui est un étang d'eau salée. Ça pose problème, effectivement, ce rejet du barrage de Saint-Chamas, mais depuis des années. Et depuis des années, le MNLE, d'ailleurs, a des propositions pour que cette eau ne soit pas rejetée directement dans l'étang de Berre. Là, on voit bien que c'est qu'une question échange de l'eau contre du pétrole. Enfin, franchement, on ne croyait pas arriver si tôt à ce genre de troc. Mais le MNLE, donc, a prévu, si cette affaire-là était confirmée, parce que pour l'instant, au niveau des pouvoirs publics, on dit qu'il n'y a eu que des rencontres préparatoires et que rien n'est prévu, en tout cas pour cet été. Nous serons présents à Fos-sur-Mer si un de ces tankers vient à accoster pour empêcher le chargement de cette eau. C'est impossible qu'on arrive à ce genre de troc entre l'eau et le pétrole. On doit vraiment avoir une autre vue des échanges internationaux qui s'éloignent de la mondialisation qui a été mise en place depuis maintenant des années et dont on voit les résultats catastrophiques. Donc, une petite pause musicale et on se retrouve dans un petit moment pour parler de l'eau, de la carafe d'or et du broc de plomb.
So far, feel so real, yeah. All this time we've been waiting for it. Who we are. Where we're going to, all this time spent preparing for it. Come so far. So far, so let me know when we get there, if we get there, yeah. Let me know when we get there, if we get there. Right now.
Bien, chères auditrices, auditeurs de Radio Agora Côte d'Azur, nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission Naturellement, l'émission du MNL 06. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons aborder les récompenses. Nous avons décidé au MNLE d'octroyer des récompenses. Alors, la carafe d'or, hein, bien évidemment, et puis un broc de plomb aussi pour 2023. Et Gérard, tu vas nous, puisque le vote est terminé, nous connaissons les vainqueurs et même les vainqueurs du broc de plomb.
On connaît les deux vainqueurs. Avant ça, je voulais dire qu'on va peut-être, quand on remettra la carafe d'or 2023, remettre une carafe d'or exceptionnelle à Agora qui nous permet tous les mois de nous exprimer sur ces questions-là. Et donc, il faut récompenser aussi la radio. Voilà. Alors, pour la carafe d'or, le choix qu'ont fait les votants, puisqu'il y a eu 210 votants qui ont voté pour la nouvelle régie publique de l'eau, Est Ensemble, qui est une régie des communes qu'il y a autour de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ça représente juste 50%, puisqu'il y a eu 420 votants sur les deux élections. Et cette nouvelle régie, donc, a été créée en novembre 2022. Elle est opérationnelle depuis janvier 2023. Elle est présidée par Jean-Claude Oliva, qui est aussi un des responsables d'eau bien commun avec qui le MNLE travaille régulièrement sur certains sujets. On était ensemble à la manifestation contre la méga-bassine à Sainte-Soline il y a quelques jours. Et il participe avec nous au Forum Alternatif Mondial de l'Eau. Le responsable, disons que l'élu en charge de tout ça, c'est le maire de Montreuil, qui a pris la décision de quitter un syndicat des communes autour de Paris qui était lié à Veolia et à la SOR pour créer donc sa propre régie publique de l'eau. Ces communes qui sont autour de Montreuil représentent 7 millions d'usagers. On voit là que c'est un vrai basculement vers la régie publique, vers l'eau bien commun, plutôt que vers les accapareurs de l'eau qui, n'en doutons pas, font triste mine quand, le 1er janvier, ils ont été débranchés de ces 7 millions d'usagers. Alors, il y avait après comme nominé la commune de Martigues, qui est arrivée deuxième avec 80 voix. La commune de Martigues, ben, c'est elle est beaucoup plus ancienne, sa régie municipale, puisqu'elle date de... Elle a fêté ses 63 ans, régie municipale de l'eau, mais aussi de l'assainissement. Et depuis 63 ans, elle démontre que l'on peut être compétitif face aux marchands de l'eau, puisque l'eau de Martigues est une des moins chères des Bouches-du-Rhône, ou la moins chère peut-être d'ailleurs. Et tout ça en gérant dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est pas une régie qui s'est trouvée en déficit ou que sais-je encore, mais aussi en associant les usagers, puisqu'il y a des comités d'usagers qui sont là pour dire, pour donner leur avis régulièrement au niveau de la commune de Martigues. Alors, on souhaitait l'intégrer dans ce classement. Pourquoi ? Parce que, comme partout où il y a des collectivités, aujourd'hui, la commune de Martigues a été intégrée à la métropole Marseille-Aix-en-Provence. Métropole qui regroupe la quasi-totalité des communes des Bouches-du-Rhône, sauf Arles et le canton d'Arles. Et le risque qu'il y a pour Martigues, c'est que la métropole, qui est dirigée par Mme Vassal, choisisse d'obliger les communes qui sont en gestion en régie directe à rejoindre la délégation de services publics. Pour l'instant, la commune de Martigues continue en l'état. On sera attentif, et on sait que les élus de Martigues sont attentifs à ce que la régie municipale ne soit pas démantelée pour en faire cadeau à un quelconque vendeur d'eau. Le troisième candidat, si j'ose dire, c'est le collectif Ubaye-Auverdon, qui a eu une quarantaine de voix. Ce collectif de citoyens, hein, refuse les projets d'aménagement des stations de ski de la Foudalos, du Sinus et de Pralou, qui risquent de coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein, c'est le remettre en place la liaison entre la Foudalos et Pralou qui a été démantelée il y a quelques années. Et ce collectif, il ne se contente pas de refuser cela. il fait aussi des propositions qui coûteront beaucoup moins cher pour un aménagement durable de la montagne et un tourisme des quatre saisons qui, tôt ou tard, sera obligatoire dans les stations de ski du sud des Alpes. Donc le quatrième récipiendaire, c'est le préfet de Charente-Maritime. Bon, c'est pas tous les jours qu'on fait cadeau à un préfet, mais c'est un préfet qui, depuis 2019, a autorisé l'irrigation des golfes de Royan avec les eaux de la station d'épuration de la ville. Il faut savoir que la station d'épuration est une station d'épuration qui permet l'élimination de la totalité de tous les produits, qu'ils soient des médicaments, qu'ils soient des nanoparticules. L'eau de la station d'épuration, alors on n'a pas osé, mais on nous a dit qu'elle était buvable à la sortie de la station d'épuration. Cette eau est récupérée pour arroser les golfs, ce qui évite à ces mêmes golfs d'user de leur droit de pompage dans les nappes phréatiques sur lesquelles ils sont posés. On pense que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pu, dès l'année dernière, autoriser, alors peut-être pas l'arrosage des golfs, puisque nos stations d'épuration ne sont pas aussi performantes que celles de Royan, mais au moins de nettoyer la voirie avec l'eau des stations d'épuration, comme je pense, mais on n'en a pas encore la certitude aujourd'hui, je crois que le maire d'Antibes n'a toujours pas reçu de réponse, comme je pense, le préfet devrait autoriser les communes qui ont fait la demande à le faire pour cet été sur la Côte d'Azur. Et enfin, désolé pour notre ami David Blanchon, qui est géographe, qui a sorti l'année dernière un ouvrage qui s'appelle « Géopolitique de l'eau », qui détaille les grands défis pour la gestion de l'eau au XXIe siècle et qui propose, comme nous, une autre culture de l'eau. Il n'a pas eu le succès comme on aurait pu y croire, mais il a été quand même récompensé puisque son ouvrage a été vendu de façon très, très importante, y compris dans les rencontres qu'organisait le MNLE.
Oui, moi je trouve que c'est particulièrement encourageant que les deux premiers de ce concours de la Carafe d'Or ont été récompensés, ces deux régies qui ont été récompensées. Je me dis que la gestion de l'eau, elle est de plus en plus importante, même aux yeux des citoyens. Et c'est un peu la preuve que les citoyens ont envie peut-être de s'accaparer ce sujet. Et comme tu l'as dit, ne pas la laisser aux marchands de flotte actuels qui en font un commerce. Donc je trouve que ce premier et ce deuxième sont très encourageants, en tout cas pour la suite. Et puis dans le département des Alpes-Maritimes, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de monter des régies de l'eau et de l'assainissement aussi en même temps.
Alors, on va passer au bras de plomb. Donc le MNLE Réseau Humanité et Nature a attribué donc le bras de plomb 2023 à une personnalité ou une entreprise ou une collectivité dont les actions portent préjudice et atteinte à l'environnement. On avait proposé cinq nominés. Charles-Ange Dinesi, Nestlé, Total Énergie, le maire du village de Rogliano en Corse et l'usine à cochons de Landuvez en Bretagne. Les Alpes-Maritimes sont je pense, le département sera fier de savoir que son président, Charles-Ange Dinesi, a obtenu le bras de plomb 2023 avec une large majorité, puisqu'il a pratiquement eu 300 voix, à quelques voix près. On l'avait nominé parce que on rappelait l'existence du comité de l'eau et de la biodiversité, le CODEB, le comité départemental, et que ce comité ne s'était plus réuni depuis 2015. Entre-temps, il y avait eu des inondations, dont trois meurtrières, et il y avait eu des sécheresses de façon de plus en plus fréquente. Donc on pensait que, pour tout cela, Charles-Ange, qui est qui a hérité du poste de président, il n'a pas été élu, hein, il a remplacé Éric Ciotti, pouvait recevoir le bras de plomb, et c'est ce qui se passe. Mais depuis, il y aura d'autres. On parlait tout à l'heure de l'achat des 1 million de bouteilles en plastique d'eau pour cet été, et d'autres joyeusetés comme la création d'une réserve d'eau à Valberg pour fabriquer de la neige artificielle, même si, il le dit maintenant, Charles-Ange Zinézi, je le cite, « Fort celui qui pourra prévoir la fin de la neige ». Je pense que s'il lit les rapports du GIEC, il n'y a pas de problème, il pourra se faire une idée de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc, on remettra ce broc d'or à Charles-Ange Zinézi. On va l'inviter d'abord à l'université d'été comme Jean-Claude Oliva pour Est Ensemble, puisque c'est ce jour-là qu'on va remettre les prix. Et puis, si, comme l'université d'été se passe à Rodez, en Occitanie, s'il n'a pas le temps de venir nous rencontrer, on trouvera le moyen de lui remettre dans une manifestation publique auquel il participe et nous aussi. En deuxième position, Nestlé. Nestlé qui pille les réserves d'eau de la planète pour le seul profit de ses actionnaires. Nestlé est pratiquement sur l'ensemble des continents avec des capteurs d'eau. Nestlé a évidemment besoin de beaucoup d'eau et peut-être que c'est Nestlé qui a bénéficié de l'achat d'un million de bouteilles ou Danone ou peut-être Coca-Cola aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, Nestlé est arrivé en deuxième position de ce broc de plomb. En troisième, Total Energy. Là aussi, un grand pollueur des eaux souterraines, en particulier de la Patagonie, en Argentine et au Chili. Là où Total Energy exploite le gaz de schiste par extraction hydraulique, ce qui, par exemple, est interdit en France et dans d'autres pays, mais évidemment que les pays d'Amérique du Sud ne sont pas trop regardants quand des entreprises de ce type viennent. On voit après les dégâts qui sont faits, en particulier, je répète, en Patagonie.
Juste une intervention, en parlant de ne sont pas trop regardants, il faut savoir qu'en France et en Europe, d'une manière générale, on n'est pas trop regardant pour importer ce gaz actuellement qui vient de ce continent. Il fallait dire, je crois que tout le monde ne le sait pas, mais c'est interdit en France, mais on importe quand même.
Oui, c'est un peu comme les OGM, c'est interdit en France, mais le soja qui a été cultivé avec de l'OGM vient tranquillement pour nourrir les bestiaux. Là, c'est le gaz.
Accord à côté sur.
Alors après, en quatrième position, c'est l'usine à cochons de Landuvez en Bretagne. Et quand je dis à cochons, il y en a quand même 12 000 dans cette usine. On a vu il y a quelques jours qu'une usine de ce type, mais c'était des vaches, aux États-Unis a brûlé. Les 18 000 vaches, il y en avait un peu plus, ont brûlé avec l'usine. L'usine à cochons de Landuvez, c'est une usine qui pollue les eaux de cette région. Mais il n'y a pas que celle-là, malheureusement. Mais c'est vraiment exemplaire, si j'ose dire, 12 000 cochons dans une usine. C'est-à-dire des cochons qui ne verront jamais un brin d'herbe ou qui ne pourront pas courir. Dans une région où les algues nocives sont de plus en plus importantes, où il y a des gens qui sont... on ne peut plus boire l'eau potable, par exemple, eh bien là, on a trouvé un ministre, un préfet, pour donner l'autorisation de construction de cette usine, qui aujourd'hui est effective. Et donc peut-être, quand vous achetez un rôti de porc, c'est un cochon de Landuvez, ça ne sera pas marqué dessus. En cinquième position, le maire du village Rogliano, en Corse. Le maire du village Rogliano, il a installé l'été dernier, en 2022, une usine de dessalement de l'eau, parce qu'il y a une affluence touristique dans ce village très importante. Il a loué, parce qu'on loue des usines de dessalement de l'eau, il a loué l'usine, il a installé pendant les 3 mois de la saison corse, et puis l'usine a été démontée et repartie. On ne sait toujours pas ce qu'il fait du sel qui a été évidemment produit. On ne sait pas qui va payer la note énergétique, parce que des usines de ce type, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais il ne s'est pas contenté de ça, puisqu'il a donné des permis de construire à Volo. Et donc, on peut imaginer que l'été 2023 sera pire, et que peut-être il y aura une nouvelle usine de désalinisation à Rogliano, qui va s'installer encore pour quelques mois. Voilà. Nous, on pense que le tourisme, de cette façon, ce n'est pas possible de continuer, que ce soit en Corse, d'ailleurs, ou sur la Côte d'Azur, puisque là, de temps en temps, on évoque ces questions de dessalement sur la Côte d'Azur. Il faut savoir, à un moment donné, dire stop au tout tourisme. Il y a des endroits où le tourisme est régulé. Il serait peut-être temps que sur la Côte d'Azur, on en fasse autant, parce que on voit bien comment la question de l'eau, il faut savoir que les 54 000 piscines aujourd'hui qui existent dans les Alpes-Maritimes sont remplies et que cette eau, elle va manquer cet été, parce que c'est de l'eau potable aussi, elle va manquer cet été au robinet pour les besoins vitaux des gens. Voilà quoi. Et puis toute une série d'activités annexes qui sont plus possibles dans une situation climatique où maintenant on peut dire qu'on est dans le changement climatique. Voilà. C'est pas le chemin que prennent les élus des Alpes-Maritimes, on le voit bien, puisque eux, ils veulent toujours plus de tourisme. Mais on pourrait réguler le tourisme, rallonger la saison d'été, trouver d'autres modes. Il faut savoir que notre département, il est quand même, il y a encore des pépites qui sont pas sur le littoral. Voilà, tout ce travail est à faire. Si on est consacré la moitié de l'argent qui est consacré aux stations de ski l'hiver et au littoral l'été, on aurait de quoi faire autrement.
Alors, avant de clôturer notre émission, un petit message en direction du président du conseil départemental. S'il veut récupérer son prix, le prix de la honte, hein, son broc de plomb, qu'il s'adresse au MNLE et puis on prendra un rendez-vous et on parlera d'eau, de transport et de pas mal de sujets qui nous sont à cœur et qui ne sont pas très bien gérés, comme tu viens de le dire, dans le département. On vous remercie Radio Agora Côte d'Azur et on vous dit à une prochaine émission.